Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, la case de Seb et on va parler de manga et peut-être un petit peu d'autre chose. Mais avant toute chose, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touf.
Batman. Trop vite. Tu n'es pas chez toi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, on est ensemble pendant une heure, mais je ne suis pas tout seul, je suis bien entendu avec Fabien. Ça va Fabien ?
Ça va Seb, salut tout le monde.
On a plein de choses à vous raconter, à vous présenter aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, pas mal de mangas, pas mal de choses. Est-ce qu'on commence avec le truc le moins drôle certainement du lot, qui n'est pas un manga ?
Bah oui, pourquoi pas, ce que tu m'as parlé tout à l'heure.
Ouais, j'ai eu la chance de lire un ouvrage qui s'appelle Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie. Alors, lire un ouvrage, c'est une façon assez importante parce que je n'ai lu qu'une partie des épreuves non corrigées puisque l'ouvrage en question ne sortira que le 12 février de l'année prochaine. Et quand j'ai vu cette histoire-là, donc c'est l'éditeur, les éditions Robinson qui m'ont envoyé ces épreuves non corrigées, c'est hyper intéressant en fait parce que ça nous montre que ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est pas récent du tout. Quand on ouvre l'ouvrage en fait, donc j'ai quelques pages qui ont été traduites en français. Le reste est en russe, cyrillique, je sais pas comment, je suis pas très très doué là-dedans. Mais on a quand même une frise de tous les soucis qui ont pu se passer entre la Russie, l'URSS, l'Ukraine et même bien avant en fait cette période-là. Et ça remonte à très loin et en fait je trouve ça hyper intéressant. Alors c'est très... je vais pas dire que c'est froid dans le dessin, mais c'est assez reportage, c'est des tons de gris rehaussés de couleurs orangées qui rappellent tout au long de l'album en fait les flammes et les soucis, les explosions qu'il peut y avoir là-bas. Mais c'est ultra intéressant en fait de se plonger là-dedans. Alors c'est fait par des gens qui sont spécialisés, hein. Il y a une intellectuelle ukrainienne d'origine afghane qui est spécialisée dans les études culturelles et les dessinateurs sont des auteurs ukrainiens à la base. Donc forcément, je veux pas dire que ce sera biaisé, mais l'avis sera peut-être un peu plus du côté ukrainien que du côté russe et peut-être un peu moins objectif et survolant que ce que pourrait l'être au global, mais moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire que ce qui se passe actuellement, ça a des racines quand même beaucoup plus profondes que simplement juste vouloir récupérer un petit bout de territoire tel qu'on nous l'annonce. On nous dit que c'est quelque chose d'assez vieux, mais peut-être pas autant que ça. C'est vrai que quand tu regardes les dernières pages, alors je les comprends pas parce qu'elles sont en russe, mais on se rend compte que c'est pas récent.
Oui, en effet, au vu des dessins, c'est même très très ancien là pour le coup.
Ah, on est sur des points. C'est pas caricatural, le mot que je cherche, c'est des. C'est de la représentation graphique. Il y a un mot pour ça que je n'ai plus. Mais il y a plein d'explications, ça remonte à plein de choses. Et en fait, le début nous présente ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. À un moment, ça fait un petit twist en nous disant, mais en fait, c'est encore plus vieux que ça. Et là, tu fais, ok. Avec des famines provoquées en Russie, en Ukraine, par la Russie. C'est hyper instructif. Et je pense que ça, c'est un ouvrage qu'il faudrait qu'il soit mis à disposition de pas mal de gens. Qu'on soit d'accord ou pas, que ce soit orienté ou pas, ça permet au moins d'avoir une lecture d'un conflit majeur, on va dire, de notre époque, parce que voilà quoi.
Oui, là, comme je viens de voir, il y a écrit 1240, donc on revient vraiment aux racines du truc, je pense.
Ouais. Pour le coup. Là, dans l'ouvrage, moi, j'ai quelques petites feuilles supplémentaires, et quand on prend en fait les feuilles. La première date sur la chronologie du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est 988. Donc, ça remonte quand même loin. Hein? Je rappelle qu'on est en 2024, pour ceux qui sont nuls en maths. Je vais faire le calcul. Bref. Donc, surveillez ça, début février, mi-février, Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie, aux éditions Robinson, par Mariam Nayem et Yulia Vous et Ivan Kipibida. Je suis désolé hein, pour les noms, je suis sûr que je les ai mal prononcés, mais bon. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lorsque moi j'aurai pu lire la version définitive. Mais j'étais très content de recevoir cette version-là parce que ça me donne encore plus envie d'en apprendre en fait sur ce conflit. Donc voilà. Bref, bon, on va partir vers des trucs un peu plus joyeux.
Ouais, ça marche.
Tu veux commencer? Je commence. Non, toi, non, je vais pas te laisser commencer en fait.
Si je commence avec celui-ci. Hein,
avec celui-là, ça va?
Celui-ci, ça va.
Ok.
Parce que l'autre, sinon, c'est sûr que c'est pas très joyeux. L'autre.
Moi, j'y vais avec un truc hyper léger.
Ah bah vas-y, je te laisse la main.
Je vais y aller avec Magie Lumière Co Ltd. Aux éditions Big Cana sur un scénario de Seka Iwata et un dessin de Yu Aoki. Je te l'ai passé tout à l'heure, t'as parcouru un petit peu. De quoi ça parle? Il faut imaginer un monde où il y a des monstres qui peuvent apparaître de temps en temps. Et pour lutter contre ces monstres, il y a des structures de Magical Girl qui se sont créées, donc des entreprises de Magical Girl. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Magical Girl, c'est une jeune femme souvent qui, en hurlant un nom ou un truc, va pouvoir se transformer et utiliser des pouvoirs magiques. Eh ben, ça a été pas industrialisé, mais ça a été, c'est devenu un emploi en fait, Magical Girl. Donc, faut postuler, faire un CV, et on a une carte qui nous permet de nous transformer, puisque c'est un programme informatique qui va nous octroyer des pouvoirs qui vont nous permettre d'avoir des sorts un peu comme une sorcière. Et en plus, les personnages se baladent sur des balais. Donc, c'est assez particulier, et on découvre un personnage, au départ, qui est surtout une jeune fille qui est en recherche d'emploi. Et par un concours de circonstances que je ne vais pas vous gâcher, elle va se faire embauchée par l'entreprise Magie Lumière. Une entreprise, c'est une start-up. Une start-up dans la Magical Girl, puisqu'elle compte, trois employés, plus le patron, une Magical Girl, un agent administratif, un informaticien et le patron. Le patron qui a une grande passion pour le cosplay, puisqu'il se cosplaye en Magical Girl. Ça vaut le détour. Juste voir sa tête, ça vaut le détour. Le nerd, c'est un nerd tel qu'on peut l'imaginer. Il ne sort quasiment pas la tête de son clavier ni de son ordinateur. Et puis, on suit notre jeune fille qui va commencer à découvrir ce que c'est que le métier en fait de Magical Girl et qui, malgré le fait qu'elle n'a pas d'aptitude particulière, a développé une aptitude particulière, parce que sinon, on n'est pas à une contradiction près. En fait, elle se passionne pour les choses et elle apprend beaucoup plus facilement les choses. L'employée actuelle de Magie Lumière, elle a découvert le fonctionnement d'un balai en montant dessus. Alors, des balais technologiques, hein, je précise, c'est pas des balais pour nettoyer dehors. Et elle a découvert ça de manière complètement empirique en essayant. Et ben l'héroïne, elle a lu des trucs sur le balai et du coup, elle sait faire certains trucs parce qu'elle l'a lu. Elle sait comment ça fonctionne. Et du coup, ça la rend super cool. Enfin, vous voyez, je me suis emballé parce que c'est vraiment un manga qui est fun, c'est mignon. Il y a des monstres qui font un peu peur, mais pas trop. C'est, les personnages sont super attachants, tout de suite. Même le patron, qui est un peu cringe, un peu flippant, imaginez quand même un mec un peu maigrichon, avec des grosses cernes déguisées en Magical Girl, il fait flipper le gars à la base. Mais ça devient super drôle.
On le voit sur la couverture direct au fond là.
Ouais, il est au fond.
Ouais. Et ouais, en effet, ça déteint un peu.
Ouais, et puis la première fois que tu le vois surgir, tu fais, voilà, c'est quoi ça? Et en fait, non, c'est pas grave, il assume le truc, tout le monde assume le truc, et ça passe trop bien. Donc moi, je trouve ça cool. Ce que je peux vous proposer, c'est d'écouter. Alors là, on parle du manga, la version papier, qui est publiée chez Big Kana. Qui ne m'a pas été envoyé par Big Kana. J'avais dit qu'on préciserait maintenant à chaque fois. Donc, c'est purement un truc qui m'a vraiment fait kiffer. Et j'ai découvert le manga après avoir découvert qu'il existait une série animée qui est en cours de diffusion. Donc, je vous propose d'écouter le générique, l'opening, comme on dit dans le milieu, de Magie Lumière. Tout de suite.
Des produits très bien notés à des prix.
Le générique de Magie Lumière sur le 101.5 de Radio G. Alors ouais, moi ça m'avait vraiment ça m'a fait kiffer en fait ce truc. Le fait de détourner un petit peu le rôle de la Magical Girl en faisant quelque chose d'autre. Là, le costume à froufrou qu'on voit dans plein de trucs de Magical Girl, ça devient un uniforme.
Ouais, ouais, ça garde les quand même bien les codes. On ouais. Le voit rien que dans le générique, t'as bien les codes des Magical Girls pour une petite comparaison avec Sailor Moon et tout ça. On sent le côté costume qui s'en rapproche vachement, quoi.
Complètement. À la différence que ce sont des costumes qui sont assistés par ordinateur. Je parlais d'une heure de l'équipe. Il est là pour programmer les transformations. Et dans le premier tome, il explique bien qu'il a mis tous les effets lumineux, paillettes qu'il pouvait dans le truc. Et bon, on est un peu déçu quand même dans la version papier parce que on les voit pas toutes ces paillettes, mais on sent que il y en a partout.
C'est flamboyant.
C'est flamboyant. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. J'ai pas regardé combien il y avait de tomes. Ça peut être l'occasion de faire un petit tour là-dessus, mais c'est vraiment une série qui est plutôt cool, qui marche bien. Il y a l'animé qui est vraiment sympa. Donc il y a plein de possibilités en fait de rentrer dans cette série si vous avez envie de la découvrir. C'est un manga qui est quand même vachement récent parce que du coup il date de 2021 au Japon, donc c'est pas vieux pour pas mal de trucs. Il y a quand même 14 volumes en cours au Japon. Et on a le deuxième qui sort là.
Sacré rythme de parution quand même.
Ouais, après...
En 3 ans, 14 tomes, c'est pas mal.
C'est ouais, il envoie. Donc, à voir. Alors, pour l'instant, au niveau histoire, je vous dis juste que on découvre l'univers. C'est un tome d'introduction. On sait pas trop ce qui se passe. à la toute fin, on voit quand même que c'est un milieu un peu concurrentiel et qu'il y a d'autres entreprises, certainement pas trop trop en mode start-up, qui sont, on va dire poliment, des gros crevards. Voilà. Donc, Magie Lumière Co. Ltd. chez Big Cana, de Seka Iwata au scénario et de Yu Aoki au dessin. Voilà, voilà où. Est-ce que tu veux enchaîner, Fabien ?
Eh ben, écoute, oui, avec plaisir.
Allez, avec... Ah oui, c'est vrai, j'oublie le générique maintenant. Oh, je sais plus. Allez, attention, générique. Kaizoku-oni ! Ore wa nare !
Nani ? Omae wa mou shindeiru.
Et du coup, moi, de quoi je vais vous parler? Eh ben, je vais vous parler d'une sortie récente qu'on a eu la gentillesse de nous envoyer de chez Pika Édition, donc en SP, en service presse. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de faire une première chronique qui ne vient pas de ma Mangatech. Donc c'était une nouvelle occasion pour de découvrir, parce que c'est vrai que je serais peut-être pas forcément allé sur le titre, ou je l'ai pas vu forcément passer à ce moment-là, sachant que de toute façon, c'est un titre très récent, et que moi, j'ai des titres qui commencent à être un peu plus datés de côté de ma Mangatech. Mais donc du coup, je vais vous parler de Watch Dogs Tokyo. Donc c'est paru là en 2024, donc c'est tout récent. Au Japon, c'est sorti en 2022, c'est fini en 3 tomes. Donc du coup, série assez courte. Au dessin, on a Siwei Kamo et au scénario, Seiichi Shirato. Donc là, on va être sur un seinen d'action un peu SF, anticipation, avec beaucoup de technologie. Donc, en fait, de quoi ça parle? On va être au niveau du gouvernement japonais qui va décider d'introduire un logiciel très développé qui s'appelle le JICTOS, qui a été développé par la corporation technologique Bloom Japan. En fait, le quotidien de la société change radicalement et c'est pour vraiment de la vidéosurveillance, de l'intelligence artificielle qui va détecter ce qui se passe pour soi-disant surveiller et sécuriser. Okay. Et donc, la population va pas vraiment être consciente qu'en fait c'est un nouveau genre de risque pour la vie privée et les libertés. Chose qui est un petit peu d'actualité, même si on en est quand même loin. On est quand même loin de ce qui se passe dans Watch Dogs Tokyo. On pourrait s'imaginer que ça pourrait arriver dans quelques années malgré tout si on continue à dans ce sens-là quoi. Et donc face à ce système invasif et corrompu, un groupe de hackers de l'ombre, les DedSec, décide d'agir en usant de leur propre technologie pour révéler au grand jour cette machination. Goda, un agent infiltré, se prend alors peu à peu dans une toile morale qu'il dépasse. Parce qu'à la base, lui, est policier.
Ok.
Donc il se retrouve...
Oui, c'est pas un hacker de base.
Non, lui, à la base, il est policier, mais il voit les injustices et la dérive et va se retrouver à travailler avec eux, en fait.
Ok.
Donc, et lui est pourtant quelqu'un qui semble assez... vraiment qu'à la justice, mais vraiment... qu'il très important pour lui, et il voit que du coup ça va pas dans le bon sens ce qui se passe.
C'est dommage.
C'est pour ça qu'il va aller ce côté un peu plus borderline, même un peu plus que borderline. Donc là en fait on est sur une série qui a inspiré du jeu vidéo Watch Dogs, la licence d'Ubisoft. Donc moi personnellement je connais pas du tout cette licence, donc j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Mais par contre ce que je peux juste te dire sur ce que j'ai lu, c'est que j'ai beaucoup aimé. En fait, on est vraiment plongé au cœur d'une machination à très grande échelle. Vraiment, ça touche toute la ville de Tokyo avec une très très grosse corporation derrière. Et vraiment, on va mettre en avant les dangers de l'informatisation à outrance, quoi, pour tout ce qui est soi-disant sécurité, mais en plus, et avec toutes les dérives du pouvoir que ça amène à ceux qui font ça, en fait. Donc, on a quand même un côté SF qui est bien présent, parce que la technologie, elle est quand même un peu au-dessus de ce qu'on connaît, nous. Mais on sent qu'on n'est pas si loin, donc c'est pour ça qu'on est un peu sur de l'anticipation plus que vraiment de la SF pure. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé, c'est le rythme. Il est très soutenu, il y a vraiment tous les ingrédients d'une très bonne série d'action. Un dessin qui est très classe, moi je le trouve très sympa, un découpage qui permet de bien rythmer tout ce qui est narration et scène d'action. On n'est vraiment pas perdu, tout ce qui est action c'est bien maîtrisé, c'est fluide. Il y a certaines séries des fois on se demande ce qui se passe dans certains combats ou ce genre de choses, je trouve que c'est pas du tout le cas là, et du coup la lecture elle est fluide et on termine le tome et on se dit c'est déjà fini, et du coup on se dit vivement la suite pour voir ce qui va se passer. Moi ma petite crainte c'est que 3 tomes, j'espère que ça va pas être un tout petit peu trop court au vu de l'ampleur en fait de toute la machination et de tout ce qui se passe. Après, c'est tellement rythmé que il y a moyen de peut-être de finir les choses bien. Donc on va voir, mais j'ai bien envie de voir la suite parce que ça m'a donné vraiment une très bonne lecture en tout cas.
Eh ben écoute, à découvrir. Je suis comme toi, hein. J'avais pas fait le jeu vidéo. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cet ouvrage-là, ça va compléter un petit peu les jeux qui existent. Puisqu'il y a trois jeux actuellement, Watch Dogs, Watch Dogs 2 et Watch Dogs Légion, qui se déroulaient respectivement dans Chicago, San Francisco et Londres. C'est aussi le moyen de partir vachement plus loin.
Tout à fait. C'est vraiment une adaptation parce que du coup, là, on est à Tokyo. Et c'est pas, on reste dans l'univers de ce que j'ai pu en lire un peu des avis et de certaines personnes qui jouent au jeu. Bah ça garde bien l'univers du jeu, mais sans en faire un copier-coller. Et donc c'est vraiment une pierre en plus quoi. C'est pas un copier-coller bête et méchant comme on peut des fois avoir dans certaines adaptations.
Ouais, effectivement. Bon bah écoute, c'est bien d'avoir des bonnes surprises comme ça.
Ouais non c'est très très cool. Donc du coup c'est Watch Dogs Tokyo chez Pika Edition. Avec au scénario Seiichi Shirato et au dessin Siwai Kamo. Avec une œuvre originale d'Ubisoft, du coup.
Eh ben oui. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale avec deux morceaux d'Old Olaf, donc chanteur qui fait souvent de l'humour. Et j'ai découvert, grâce à Laurel, dessinatrice que je suis depuis un petit moment, que vous connaissez peut-être. Qu'il avait fait deux chansons consacrées à la BD, avec le décalage qu'il peut avoir comme d'habitude. Et je vous laisse découvrir le thème, et peut-être deviner de quelle série il parle dans cette chanson qui s'appelle 100.
Il y a des tensions, des regards noirs. On se méfie même quand on se dit bonsoir. Le vieux est mort hier matin. Les pilules bleues sont réservées aux humains. Y a-t-il un dieu au pays des champignons? Qu'avait-on fait pour une telle punition? Et même si elle repartait maintenant, rien ne pourra plus jamais être comme avant. Les plus ridicules. J'ai vu un gars faire un cadeau qu'a explosé à la tête de schtroumpfs costauds. Avant, je jure, on pensait jamais à mal. On rêvait juste d'un banquet ou bien d'un bal. Mais aujourd'hui, chaque nuit, des choses nous hantent. Des rêves sales de nous sang et d'une tourmente.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G avec cette chanson d'Old Olaf qui parlait bien entendu des Schtroumpfs. D'une manière qu'on n'aurait pas imaginé, hein.
Oui, tout à fait. C'est assez étonnant.
Vers où, vers quels horizons allons-nous? Allez, j'y vais.
Vas-y, vas-y.
J'y vais. On garde le truc le plombant pour la fin.
Ouais, ça marche.
J'ai eu deux ouvrages qui m'ont été envoyés par Pika Édition il y a un petit moment déjà que j'ai lu, que j'ai je voulais chroniquer et que j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc on y va maintenant. Je voulais commencer avec Versus sur un scénario de Wan et dessiné par Kyutaru Azuma. Wan, ça vous parle peut-être, vous chers auditeurs, c'est le grand phénomène qu'on a eu ces dernières années. C'est le créateur de One Punch Man, de Mob Psycho 100, et je crois qu'il y en a un autre que j'ai perdu.
Je l'ai pas l'autre non plus.
Attends, je vais te le retrouver, ou pas. Reigen, que je connais moins.
Connais pas non plus.
One Punch Man, si vous connaissez pas, par contre, là, je pense qu'il y a un problème. Vous deviez dormir dans une grotte si vous aimez les mangas, c'est juste pas possible. Donc, Versus, c'est le nouveau truc qui est sorti de son cerveau très prolifique et surtout très, très, très imaginatif. Je vais vous divulguer un tout petit peu quand même, parce que je peux pas faire autrement. C'est un tome d'introduction. Pour l'instant, il y a 2 tomes en France et 4 tomes au Japon. C'est sorti en 2022 au Japon. Donc, vous voyez, quand on disait qu'il était prolifique avec Magie Lumière, là, 4 tomes en 2 ans, ça va.
Oui. Bah, c'est pas sa seule série.
Voilà. Mais il dessine pas là-dessus.
Non, c'est vrai qu'il dessine pas.
Alors, rappelons quand même, si vous avez l'occasion, que Wan a commencé tout seul à dessiner One Punch Man avant que Murata lui dise « Non, en fait, je vais dessiner à ta place, ce sera vachement mieux. » Effectivement, Wan dessine pas bien.
Il a c'est pas son très, truc très,
bon, très très bon scénario, mais c'est pas son truc le dessin. Donc, de quoi ça parle Versus ? Imaginez un monde d'heroic fantasy où les humains sont un petit peu brimés par des démons et des princes démons, je sais plus comment ils les appellent, les rois démons, pardon. Et comme les humains en ont un peu marre de se faire baffer un petit peu tout le temps, ils ont recruté 47 héros qui vont avoir pour mission d'aller affronter 47 rois démons. C'est une offensive globale, générale, d'un coup, comme ça. Il y a des héros qui sont très très motivés, d'autres vachement moins, mais c'est comme ça que les humains ont décidé de s'organiser pour contre-attaquer. Bon, très très vite, on se rend compte que ça a pas bien marché. Beaucoup de héros sont morts. On suit l'un de ces héros qui survit avec d'autres gens, qui va se faire rouler dessus par le roi démon qu'il était censé aller démonter. Et puis, il va... se replier avec les personnages qu'il avait, enfin ses accompagnants, pour tomber sur son frère qui lui est mage, qui et les mages ne participaient pas ou peu à cette gigantesque offensive, puisque ce que ne savaient pas les héros, c'est qu'ils n'étaient pas là pour défoncer les rois démons, mais pour faire gagner du temps aux mages qui étaient en train de faire un gigantesque pentacle pour ouvrir un portail sur une autre dimension, pour appeler une autre dimension à l'aide. Et alors que le héros et son frère sont en train de se faire attaquer par des hordes de gobelins et qu'ils s'apprêtent à se défendre, enfin des gobelins et plein d'autres créatures du genre, une brèche apparaît. Et là, des balles fusent, des personnages en armure cybernétique sont là, ils sont sauvés. La visière d'un des guerriers s'ouvre et les premiers mots du guerrier sont « Aidez-nous ». Et là, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que quand les gens que t'as été appelé pour te filer un coup de main te demandent de l'aide, tu dis qu'il y a un truc qui va pas bien marcher. Et c'est tout ça, le synopsis de Versus. C'est que on va suivre des gens de plein d'univers différents qui ont un problème avec un antagoniste ou une espèce sur leur planète et qui se disent que peut-être que... Moi, c'est mon antagoniste, mais si je peux peut-être défouler l'antagoniste d'en face, peut-être que l'espèce d'en face va pouvoir s'occuper de mon antagoniste à moi. Et ça fait un multivers complètement dingo. Il y a, je sais plus combien ils en avaient annoncé, mais il y a plein de multivers. C'est très fouillé. Il y a plein de choses. C'est très, très dense. Là sur le bandeau, on a les parasites contre les titans, contre les machines, contre les démons. il y en a partout en fait. On pourrait croire que c'est indigeste. Tiens, je te l'ai pas passé, remarque. On pourrait croire que c'est indigeste, alors qu'en fait non, ça roule. On sent que c'est dense hein, quand même, parce qu'au niveau dessin, il y a quand même, c'est chargé, il y a plein de détails, mais ça reste fluide, ça reste lisible. Et c'est comme, je prends toujours la même illusion, c'est comme une bonne choucroute. Hein, ça peut paraître lourd, mais en fait, ça passe super bien. Et on sent qu'il y a plein d'idées. Alors, je sais pas combien il y aura de tomes au total. Parce que on peut tourner en rond. Alors on sait que One, quand il fait des scénarios, justement, il arrive à esquiver le fait de tourner en rond. One Punch Man, ça se renouvelle quasiment tout le temps. Mob Psycho, je peux pas juger parce que j'ai pas lu, j'ai pas vu, donc je sais pas trop si ça se renouvelle. Mais c'est très créatif, c'est très fun. Ça a fait un peu peur au départ de se dire tout ça, tous ces multivers sont regroupés sur la même planète, donc il y a beaucoup de choses. Mais ça fonctionne bien, c'est vraiment cool et c'est top quoi.
Oui, c'est ce que j'avais entendu aussi. Moi, j'ai écouté pas mal de podcasts ou des gens qui en parlaient, qui étaient assez, ils étaient intéressés par le truc, mais ils se demandaient, bah, est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que ce soit pas, ça parte pas dans tous les sens. Et c'est là la question a priori, parce que tout le monde apprécie beaucoup le tome 1, mais il y avait toujours ce petit point d'interrogation de se dire, bah, comment il va faire quoi, avec autant de possibilités qui s'est ouvert, ça va être un sacré boulot au niveau scénar quand même.
Bah, et puis, je pense que c'est son talent aussi de créer des personnages qui sont tout à fait crédibles. Les 47 héros qu'on a au tout début, on nous en présente plein, et il y en a aucun qui fait personnage secondaire. Et pourtant, ils se font tous laminés. T'en retrouves quasiment plus un seul à la fin du manga. Donc, il est capable de créer des choses énormes, mais où ça va? Comment? Est-ce qu'il y a un moment où il va pas tourner en rond? Pour l'instant, j'ai pas l'impression.
Ouais, non, bah de toute façon, il est doué, clairement, sur tout ce qui est scénario, il est très doué. Donc, au contraire, à voir ce que ça va donner.
Eh ben, c'est tout ce qu'on veut savoir après. Hein. Donc, voilà. Donc, Versus, publié aux éditions Pika, de One. Lisez peu importe ce que vous lisez de One, c'est forcément très bien, et c'est dessiné par Kyutaro Azuma, qui fait un taf qui est vraiment cool, parce que mettez-vous à la place du gars qui doit quand même dessiner des mechas, des trucs végétaux, des trucs fantastiques, des gobelins et tout ça. Je pense que le synopsis, quand il lit le truc, il fait what, attends, faut que je dessine tout ça, au secours. Et en fait il s'en sort vraiment très très bien, ça marche. Il y a un petit côté Fly et
Dragon Quest.
Ouais, Dragon Quest, je trouve dans la partie fantastique.
D'accord.
Mais ouais, après les robots, enfin je pense qu'il a forcément des inspirations partout.
Ah bah au vu de tous les sujets abordés, il y a pas le choix, intérêt, ouais.
Voilà pour Versus. J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment dedans. On va partir dans un tout autre univers. Ça me fait marrer de le dire, celui des toupies, hein, avec Beyblade X, publié par Crunchyroll. C'est un scénario d'Omura Kawamoto et d'Hikaru Muno, et c'est des dessins de Pozuka Demizu. Si l'un de ces noms vous parle, c'est que c'est le dessinateur de The Promised Neverland. Que si vous avez pas lu, courez le lire, c'est vraiment très très bien.
Il faut le lire.
Voilà. Par contre, mettez-vous dans un mood où vous êtes de bonne humeur. Voilà. On vous aura prévenu si vous y allez en étant un peu triste. Il y a des chances que vous ressortez pas forcément beaucoup mieux. Hein. Remarque, moi je l'ai pas fini. Peut-être que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joyeux après, mais bon.
Je te laisse la surprise.
Là on va sur Beyblade X. De quoi ça parle? De gens qui font des bagarres de toupies. Hein, je sais, dit comme ça, ça semble tellement ridicule. Mais Beyblade, ça a été un phénomène des cours de récré, ça a été un phénomène de dessin animé, ça a été un phénomène en manga. Et là, on a une nouvelle version. Alors, je sais pas combien il y a eu de versions de Beyblade différentes.
Il y en a pas mal.
Certes, ouais.
J'en avais, moi, au magasin, j'en avais déjà 3.
Ouais, donc ça commence à faire.
Ouais, il y en a pas mal.
Et là, j'avoue que j'ai été agréablement surpris par plein de points. Déjà, on a un héros qui est pas forcément le héros. Alors, on va voir sa progression. C'est du shonen, hein, donc il va vouloir devenir meilleur, il va devoir devenir plus fort. Mais au début, on suit un jeune garçon qui est pas forcément très très doué dans ses duels de toupies et qui se fait démolir sa toupie par des joueurs pros parce que bah, ils sélectionnent en fait. Ils sont dans les tournois amateurs et s'ils arrivent à battre des amateurs, ils défoncent les toupies, comme ça les gens ils peuvent plus jouer. Et ils peuvent pas devenir pros. Et on suit ce jeune gamin qui va tomber sur un autre mec avec un casque. Un casque façon Daft Punk avec un grand X au milieu. Et il dit qu'il s'appelle X. Et il va défier des mecs. Parce que lui, il veut devenir pro. Et puis c'est bizarre parce qu'il a une toupie. Cette toupie rappelle quand même vachement beaucoup le type, la toupie du type qui trône en haut de la tour X. Parce que ouais, tout est en forme de X. Hein. On pousse le concept vachement loin. Le type qui est le champion pro, il a à peu près la même toupie. Et normalement, chaque toupie est unique. C'est pas normal. Est-ce que ce serait lui ? Je ne sais pas. Mais en fait, on le sait très très vite. C'est un tout petit spoil. Non, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui veut l'affronter. Et qui n'a qu'un seul moyen de l'affronter. Retourner amateur. Et recommencer tout depuis le début. Et pour moi, c'est ça que je trouve ça vraiment cool. C'est qu'on nous montre un mec qui, par passion du sport, va redescendre son niveau, qui est un niveau excellent, pour pouvoir tenter d'affronter quelqu'un qu'il n'aurait pas pu affronter autrement. Imaginez le champion d'échecs
Kasparov.
Kasparov ou
le plus récent,
j'ai plus le nom.
Moi non plus.
S'ils étaient en train de jouer par équipe, et en fait, comme ils sont dans la même équipe, ils ne peuvent pas s'affronter. Et qu'il y en a un qui dit, allez, moi je recommence, je repars à niveau zéro, et je reviens, je remonte, et je te baf. Et ben c'est exactement ça qui se passe dans ce manga, et ça, je trouve ça cool en fait. Le mec il se remet un challenge, et graphiquement, c'est vraiment chambé. Enfin, je sais pas, je l'ai pas passé, mais moi je trouve ça vraiment, vraiment très agréable. Les tournois de toupie, on nous met des grands effets, on exagère le trait comme dans tous les mangas sportifs, mais c'est on est à fond dedans. Et on, ce qui est génial, c'est que, une fois lancé la toupie, techniquement, on n'a plus grand chose à faire dessus. Donc, ça oblige les joueurs aussi à se dire, tiens, moi, comment je vais pouvoir affronter tel joueur? À tel moment, regarde ma toupie, normalement, elle commence à arrêter de tourner parce que, elle a plus d'inertie. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un engrenage à l'intérieur qui va tourner, qui déclenche un autre truc. Moi, je trouve ça juste génial. Et je me laisse peut-être embarquer facilement, mais je trouve ça juste génial.
De toute façon, c'est l'objectif des mangas shonen sport ou ce genre de choses, de se faire embarquer en fait, de se laisser embarquer par l'adrénaline du combat ou de la course ou de voilà. C'est comme ça qu'on voit si ça fonctionne ou pas dans ce genre de série.
Ouais, mais là on parle de toupie quoi.
Ouais, mais du coup c'est là où c'est fort, c'est qu'on peut parler de n'importe quoi et on peut se retrouver embarqué quand même dedans. Et c'est ça où le manga est assez assez fort là-dessus, je trouve.
Et ben là, ça marche vraiment très bien. Alors, vous vous doutez bien que il va pas continuer tout seul. Il va gravir les échelons en compagnie de X et aussi en compagnie d'un autre personnage qu'on découvrira un petit peu plus tard, un autre joueur qui à la base est un antagoniste. Mais ça, c'est dans beaucoup de shonen.
Comme dans tous.
Voilà. Mais ça marche bien, c'est franchement frais, c'est franchement cool. Si vous avez envie de lire une BD sur des bagarres de toupies, sérieusement, allez-y, Beyblade X, ça marche trop bien. Et le dessin est vraiment cool, donc voilà. Pour les infos, on va dire un peu plus large, c'est sorti en 2023 au Japon, donc c'est encore un truc hyper récent. Il y a un volume actuellement en France et il n'y en a que 4 au Japon. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas fini. Donc il est possible que ce soit pas forcément. Je suis pas persuadé que ce soit des séries qui soient très très longues, les Beyblade.
Non, les Beyblade en général, t'as 8-10 tomes dans chaque série, à peu près. Hein. Ça dépend lesquels, mais on est globalement autour de ça.
Bon, écoutez. Hein,
Ouais, non, bah, et puis ça plaît beaucoup aux enfants. Clairement, moi je sais que souvent ils adorent, ils sont pris dans le truc. On est vraiment sur le shonen sportif où t'es à fond derrière en fait.
Et moi j'ai qu'une envie en fait, c'est d'aller acheter des toupies puis de faire des bagarres.
Oui, bah c'est ça. Oui.
Je serais forcément déçu parce que ça va pas faire comme dans le manga, mais j'avoue que je trouve ça cool.
Ou alors t'as un pouvoir caché.
J'ai une carte piège. Propose, alors je redonne les infos. Du coup, on est sur Beyblade X. C'est publié par Crunchyroll. C'est un scénario d'Omura Kawamoto et Hikaru Muno. Et c'est dessiné par Pozuka Demizu. On se refait une petite pause musicale avec toujours Old Olaf qui va nous chanter 1000 milliards. Je vous laisse deviner, encore une fois, quelle est la BD. On se retrouve juste après.
Capitaine, au si long cours, je n'embrasse que des bouteilles. De chaque mer, j'ai fait le tour. Oui, mais seul, c'est pas pareil. Et je bois à fond le cœur de je sais où tu surgis. Tu me choques, tu me fais mal en changeant tout ce que je suis. T'es pas mon style, je comprends pas. Dedans mon cœur, j'entends une voix.
Sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb. Ce sont les deux chansons que vous avez entendues de l'Olaf sont extraits de l'album Saint-Valentin, qui a une thématique, si vous ne l'aviez pas deviné, sur l'amour. Et les amours, la façon. Enfin, bref, voilà. Vive Tintin, vive Olaf. Est-ce que je te laisse d'abord parler ou est-ce que moi j'y vais et puis on garde vraiment le moins drôle? T'as une, pour combien de temps à ton avis toi?
Bon, je sais pas, 5 petites minutes, un petit
5 petites minutes. Allez, je commence. On va parler d'un manga français qui nous a été envoyé par Pika il y a un petit moment déjà. En même temps que Versus en fait. Donc ça fait début octobre.
OK.
Et c'est un manga français, donc du coup, c'est un manga de Renaud Lemaire qui a fait.
C'est Dreamland.
Ouais, j'ai vu l'hésitation. T'attendais pas que je te pose la question.
Non, j'y étais pas, mais oui, Dreamland, oui, tout à fait.
Donc Dreamland et puis un dessin de Néo. Donc Renaud Lemaire qui se lance dans la scénarisation pure avec une partie storyboard puisqu'il accompagne Néo. Je le passe en même temps. Sur ça qu'on connaît du coup grâce à la série Dreamland qui est en réédition remake enfin c'est pas un remake c'est
en fait il refait ses planches des premiers tomes donc il
pour remettre à niveau
pour remettre parce qu'il a beaucoup évolué dans le dessin au fur et à mesure de la série donc il avait envie de remettre sa patte un petit peu différemment sur la série.
Et donc du coup, c'est aussi l'occasion pour lui de faire une nouvelle série. De quoi ça parle, FreeQuest ? Ça parle d'une petite île qui s'appelle Little Island, qui est une île sous le joug du roi Mimas, qui est une créature de bête. C'est une espèce d'homme loup, enfin de loup anthropomorphe plus que d'homme loup.
Oui, on dirait vraiment un loup, mais qui marche.
Qui marche. Et en fait, tous les villageois sont complètement sous la domination de du roi Mimas, à tel point qu'en fait, de manière assez régulière, il organise ce qu'on appelle une sorte de collecte. Alors c'est un terme exact que j'ai plus le nom. Le concept est simple, on met tout le monde en randonnion. Lui, il arrive sur place, il hurle d'un grand cri, et tous ceux qui ne tremblent pas, ce sont ceux qui n'ont pas peur et qui méritent d'être enlevés et entraînés pour pouvoir rentrer dans des combats d'arène pour son bon plaisir. Ce qui fait que tous les villageois ont appris à trembler, ont appris à faire semblant d'avoir peur. Téna, l'héroïne, apprentie bretteuse, elle n'a pas envie de faire semblant. Et elle va tomber sur un jeune garçon qui n'a pas peur non plus. Mais qui lui ne sait pas faire semblant et qui a l'air un peu autiste parce qu'il parle quasiment pas, mais qui semble cacher un grand pouvoir. C'est un tome d'introduction. On nous fait découvrir beaucoup de choses dans cet univers. On nous met en place des petites choses qu'on va casser très vite pour nous faire découvrir encore d'autres choses. Et c'est hyper intéressant. On s'attache assez rapidement à Téna, ce personnage-là. Et à ce petit héros, alors j'ai plus son nom, mais ça marche super bien. On comprend très vite que les monstres, les bestiaux sont là pour vraiment dominer les humains et leur faire super peur. Et en fait, ça passe très très bien et le dessin de Néo est très très propre.
Hein. Oui, c'est sympa, c'est simple mais c'est bien fait.
Ouais, il y a un gros travail sur le regard. Alors, tout le monde va nous dire, ouais, les mangas, c'est les gros yeux et compagnie. Mais là, il y a beaucoup plus. Je trouve qu'il y a un travail vraiment assez appuyé sur le regard. Alors, est-ce que c'est l'influence de Renaud Lemaire qui l'a poussé là-dessus? Je sais pas, mais ça marche vraiment très très bien. Et alors, c'est un univers qui est quand même globalement assez violent. Je mettrais un 13-14 ans mini quand même, parce que voilà. Hein, quand on a le roi Mimas qui tue quelqu'un comme ça, tu fais bon, ouais, quand même, évitez les tout petits. Mais non, vraiment à suivre. Alors, manga français, mais Renaud Lemaire a un rythme qui est quand même plutôt important, donc on va voir. J'aimerais bien au moins un tome comme ça par an.
Ah oui, ce serait pas mal, parce que c'est vrai que plus d'un tome par an, c'est dur après à suivre, des fois.
Bah, en front, ouais, mais bon. Là, il travaille à deux, donc ouais. Pourquoi pas. Mm-hmm. À voir. Donc, FreeQuest, nouvelle série de Renaud Lemaire, au scénario et au storyboard, avec Néo au dessin, à surveiller, parce que, ouais, moi, je veux la suite, et je sais pas combien de tomes, je sais pas ce qui est annoncé, mais ce serait cool. Voilà.
Cool. Nouvelle petite série sympa.
Ouais.
Française, en plus, c'est bien aussi.
Ouais, du manga français, faut y aller, hein, Surtout, ne boudez pas votre plaisir, il y a des trucs très très bons. Donc voilà. Fabien, t'avais encore autre chose. Je te remets pas ton générique, on va pas le faire à chaque fois
non
plus.
C'est bon, une fois ça suffit. Oui, j'avais autre chose. Alors là, on va changer un petit peu d'ambiance et d'atmosphère.
Ouais.
Donc là, on retourne chez Bika Édition avec un nouveau service presse qui nous a été envoyé avec Starving Revelation, donc qui est dessiné par Kazu Inabe, et au scénario on a deux personnes qui sont Yu Kurabaishi et Kengo Mizutani. Donc c'est sorti au Japon en 2021, c'est fini en 7 tomes et c'est arrivé chez nous là tout récemment en 2024. Donc là, on va être encore sur un seinen hein, pour le coup, mais cette fois, on va être plus sur ouais, un peu suspense thriller horrifique, un petit peu quand même malgré tout. C'est-à-dire, mais horrifique, un peu psychologique aussi. Donc c'est écrit en gros sur la couverture, bon, en gros, en petit à côté de Pika Edition, moins de 16 ans. Donc clairement, ça annonce la couleur. D'ailleurs, bah, la jaquette est assez sobre. On a juste un fond blanc avec quelques ombres. Des personnages en ombre et le personnage en couleur avec un gros rocher dans les mains plein de sang. Voilà, histoire de bien mettre dans l'ambiance.
Super.
Donc ouais, de quoi ça parle en fait, c'est après avoir frôlé l'extinction, le monde semble vivre dans une paix toute relative. Sauf que désormais, les humains vouent un culte sans limite à des êtres sacrés, les grands Amaito, pour lesquels ils se sacrifient de leur plein gré. Donc c'est dans ce contexte que Hiroki, lycéen timide et sans histoire, prend soudainement conscience de la mauvaise tournure que sont en train de prendre les événements, alors que sa meilleure amie Yuzu a été choisie pour servir de pitance aux grands Amaito. L'heure du réveil a sonné. Donc là, cette fois, changement d'ambiance, hein, complètement, notamment par rapport à ce qu'on a parlé avant, ou même à Watch Dogs de tout à l'heure. On était sur une société ultra moderne, un peu futuriste. Là, on va se retrouver plongé plutôt dans une période plus contemporaine. On a l'impression d'être à peu près à notre époque, mais sans grande avancée technologique. On voit vraiment pas trop d'informatique et tout ça, donc je dirais peut-être une vingtaine d'années en arrière par rapport à nous, okay. dans ces eaux-là. Mais ça fait très contemporain. Dès les premières pages lues, de par le trait, en fait, que je trouve assez banal au final, voire presque un peu simpliste, on a l'impression, en fait, de se retrouver dans un établissement scolaire avec tout ce qu'il y a de plus classique. Une vie d'étudiant toute simple, rien de particulier. Mais on va vite se rendre compte qu'en fait, quelque chose va pas. Derrière les sourires et les attitudes joyeuses de tous les élèves et les professeurs, il y a un truc qui cloche. Je sais pas, on sent, petit à petit, qu'il y a une ambiance bizarre. Et en fait, on apprend rapidement que toute la population, en fait, est disposée à servir de nourriture pour des êtres sacrés, donc les grands Amaito. Et même encore plus que ça, c'est un honneur, en fait, d'être choisi en sacrifice. Ils vouent un culte, ils sont heureux de pouvoir se sacrifier pour ça. Il y a des scènes très, très particulières, assez gore, pour montrer qu'ils aimeraient être sacrifiés et tout ça. Ouais. Donc du coup, vraiment attention à qui on met ça, hein, parce que les scènes peuvent paraître toutes banales, toutes gentilles d'un moment, et la scène d'après, il peut y avoir des choses qui sont assez dures, visuellement, mais aussi psychologiquement. Donc ouais, je préfère vraiment mettre ce petit bémol. C'est pas souvent qu'ils mettent moins de 16 sur les mangas, c'est bien que là, quand c'est écrit, c'est qu'il faut quand même faire attention. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le côté gore et horrifique de l'histoire va s'intensifier. Donc vraiment autant au niveau physique que psychologique. Et c'est là en fait où au final le dessin qui est somme toute, je le trouvais assez simple, et bah cette impression de banalité, elle va renforcer encore plus ce côté oppressant. Parce qu'on va avoir l'impression qu'on est dans notre monde en fait, et que bah, ce qui se passe, ça devient complètement fou quoi. Les gens sont vont commencer à, on va dire, ils vouent vraiment ce culte, on dirait, ils sont presque sectaires en fait, et donc dès que quelqu'un va sortir un peu de la case, bah ça va pas bien aller pour lui, et l'effet de groupe va les amener à faire des choses horribles, et vraiment, vraiment horribles. Donc, et donc on va avoir ce côté un peu sociétal aussi, mis en avant par l'auteur, sur cette banalisation des choses quand on est en groupe, et c'est okay. juste et ce que ça peut nous amener à faire, le groupe par rapport à un petit jet de pierre qui va commencer à s'intensifier, qui va finir voilà,
des vraiment, juges de KS,
ouais,
quoi.
Ouais, et puis dans des proportions très très importantes. Et donc du coup, cette lecture en fait, elle m'a laissé un peu perplexe. À la fin, j'étais là, j'ai fait mais waouh, qu'est-ce que j'ai lu là? Parce que du coup, on a embarqué et on se pose des questions. C'est violent, donc les images sont choquantes. Et c'est pas de la violence comme on a dans des séries d'action où des fois ça peut être très violent, mais ça atteint pas de la même manière. Là, on se pose les questions en fait. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ça. Et j'ai envie de lire la suite pour voir vers où ça va nous amener et comment ils vont réussir à se sortir de ça un peu. Parce que ce héros qui, lui, montre sa peur, ce qui est interdit, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir peur, ils n'ont pas le droit de même de dire qu'ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils doivent être heureux de ce qui se passe. C'est la vie, c'est chouette, c'est beau. On va mourir, ouais, trop bien.
Super.
Et donc, du coup, j'ai, ouais, j'ai envie de savoir vers quoi ça va nous amener. Et je trouve ça intéressant comme lecture. Mais faut s'accrocher, par contre.
Tu avais lu la série d'origine ?
Eh ben non, j'ai appris en regardant un petit peu après avoir lu ce que les auteurs et tout ça, qu'il y avait eu en effet un Sterving Anonymous,
ouais.
Qui par le même auteur, et a priori qui était un petit peu différent dans son approche, même si c'était toujours un côté un peu horrifique et tout, où là les méchants entre guillemets c'était plus caché, c'était pas ouvert à toute la population comme là, et c'était plus des fermes où les humains étaient là pour se faire manger et cultiver un petit peu par les monstres.
C'est ça, en gros on suit un personnage qui va découvrir qu'il est dans un élevage d'humains, ouais. Destiné justement au grand
Maïto aussi peut-être.
Grand Maïto peut-être sûrement, mais et on avait un aspect tu parles d'horreur ou de violence. Il y a un aspect très body horror en fait, c'est les déformations du corps, c'est du liquide qui suinte, tout ça qui était aussi très prenant et qui est une forme d'horreur qu'on trouve beaucoup au Japon, plus que peut-être ailleurs en fait.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Même quand on voit du Jujito et tout ça, t'as toujours ces formes, ces choses-là qui sont un peu ouais, dégoulinant, un petit peu ouais, dérangeant dans ce sens-là, ouais. Mais là, ouais, donc sur celui-ci, c'est moins cru en fait, c'est moins violent à l'impact, mais c'est des scènes par moments qui sont très dures et baignées dans une atmosphère où on a l'impression de banalité. Et c'est ça qui rend la chose encore plus difficile, je trouve. Donc voilà, du coup, donc c'est Starving Revelation de Yu Kuraishi au scénario et au dessin, c'est Kazu Inabe, d'un concept original de Kengo Mizutani. Et donc c'est chez Pika Édition.
Et c'est une série qui sera plutôt courte puisqu'elle est finie en 7 tomes, ouais, au Japon.
Ça, tout à fait.
Depuis 2021.
Exactement.
C'est pareil, c'est une série encore assez récente.
Oui.
Voilà. Quoi dire de plus? That's all, folks. Et oui, c'est Porky qui vient d'annoncer la fin de l'émission. On a passé une heure plutôt cool, rapide. Mais avec plein de mangas, plein de belles choses. On se retrouve pas dans 15 jours, parce que du coup, ce sera le premier de l'an. Donc voilà, hein. On va peut-être se faire une petite pause là-dessus. On se retrouvera du coup dans un mois pour de nouvelles lectures. Je sais plus parler. Vivement les vacances. Merci à toi Fabien d'avoir partagé cette émission avec moi.
Merci à toi.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous. Et on se retrouve une prochaine fois. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée.
Ah bah, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, mais je peux de ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trop vite! Venez par suite-moi ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
Yeah, it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. Everything went back to how it was, but nothing ever felt right.
Radio G 101.5 FM.